Bonjour bien-aimés. Oui, tous ensemble, nous voulons que le Seigneur nous unisse et que nous puissions être des enfants bien-aimés de Dieu. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce premier temps de ce culte en ton honneur. Nous nous réjouissons d'avoir pu monter vers toi notre louange, notre reconnaissance. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée de communier aussi à ton repas. Nous rappelons que nous sommes pécheurs, mais des pécheurs repentants, rachetés, lavés dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, morts et ressuscités. Et nous sommes vivants en Dieu aujourd'hui. Merci de nous avoir donné de nous rappeler que c'est en sainteté de vie que nous voulons marcher désormais, à ta ressemblance. Merci pour ce temps où nous voulons regarder ta parole, que tu nous aides, que chacun de nous, chacune d'entre nous, puisse saisir une partie de cette exhortation, de ce message de ce matin, pour que ça marche avec toi, sa communion avec toi, puisse grandir d'un pas de plus. C'est ma prière, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous laisse ce matin avec vous méditer dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Éphésiens. Et regardez avec vous le thème qui va s'afficher bientôt. Voilà. Je deviens de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Vous avez bien vu qu'il n'y a pas de ponctuation à chacun de nous de mettre soit un point d'interrogation, soit un point d'exclamation. Mais en tout cas, nous devons, en tant que chrétiens, si c'est ce que nous sommes, garder à l'esprit cette phrase. Je deviens de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Est-elle une phrase affirmative? Est-elle une interrogation? Ou tout à coup, on se découvre en train de devenir de plus en plus comme Jésus-Christ? Nous allons pour cela jeter les regards dans une des épîtres qu'on appelle épître de la captivité. Captivité parce que celui qui l'a écrit a écrit plusieurs épîtres alors qu'il était en maison, comment je vais dire, en maison surveillée, ce qui était une prison à l'époque, à Rome. Et c'est fort de cette circonstance de sa vie que l'apôtre Paul, poussé par l'esprit, écrit l'épître aux Éphésiens qui fait partie des lettres de la captivité. C'est une épître qui est traversée par le thème de l'amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il semble que dans cette petite épître de 6 chapitres, on trouve 23 fois l'invocation, sinon la mention du verbe aimer. Et j'avais déjà apporté une prédication sur l'un de ces chapitres où l'apôtre Paul faisait mention justement du fait qu'il priait pour les Éphésiens pour que Dieu ouvre les yeux de leur cœur afin qu'ils découvrent la profondeur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu. En somme, il priait que les Éphésiens du moins découvrent toute l'ampleur de l'amour de Dieu pour eux. Et si toujours dans cette même optique de l'Église que Dieu donne, qu'il va, dans le chapitre 3, dire que c'est une révélation qu'il met au service de l'Église d'Éphèse, mais pour toutes les Églises de tous les temps, que dans les temps qui sont les derniers, c'est par l'Église que Dieu a décidé de se révéler au monde. Non seulement au monde visible, mais au monde invisible. Et nous avons ce chapitre 4 par la suite qui commence comme vous le découvrez. Je commence pas par le verset 1, je commence par le verset 4 pour la méditation qui nous concerne ce matin. Cette section, elle s'inscrit dans une grande section qu'on appelle la marche de l'Église et qui, selon plusieurs spécialistes de la Bible, ceux qui nous aident à mieux appréhender, à mieux comprendre, à mieux approcher la parole de Dieu, cette section se met dans ce qu'on appelle la marche de l'Église, chapitre 4 jusqu'au chapitre 6. Du chapitre 4, verset 4, il est dit « Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne pour tous, agit par tous et demeure en tous. » À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Dans d'autres versions, il est écrit, cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Et à lui de continuer, et je saute exprès le verset 8 et le verset 9, et je tombe au verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, ce qui, dans certaines versions, est dit évangéliste, d'autres comme bergers et maîtres, dans d'autres versions, vous avez pasteurs et docteurs, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la statue parfaite du Christ. Dans une autre version, il est plutôt dit à partir du verset 11, « Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et catéchètes, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte et à la taille du Christ dans sa plénitude. » Amen. Comment comprendre cette parole? Trois points ce matin pour nous aider à aller plus loin. Vas-y, s'il te plaît. Le premier point, c'est déjà de considérer dans ce texte quelque chose de très marquant. C'est que Christ a fait des dons. Il dit, en s'appuyant sur le fait que l'Église est une seule entité, et ce matin encore, j'en parlais avec des jeunes dans le cours de croissance chrétienne, parfois, et je reviendrai dessus tout à l'heure, il nous faut nous-mêmes redéfinir pour nous-mêmes notre compréhension de l'Église. Nous avons pris l'habitude de dire « je vais à l'Église », ce qui n'est pas faux, puisque finalement, le bâtiment qui est le lieu où les chrétiens se rassemblent est appelé Église. Et que dans notre conception humaine, généralement la référence que nous avons à l'Église, c'est un bâtiment. Alors que étymologiquement, l'Église n'est pas d'abord un bâtiment. L'Église, c'est le rassemblement de tous ceux que Dieu a sauvés et qu'il a mis à part. Mais il leur faut un lieu pour se rassembler. Donc c'est un bâtiment. Et comme on avait voulu identifier ce lieu aux personnes qui se rassemblaient, on l'a appelé Église. Et depuis, l'Église est cet édifice religieux, ce bâtiment religieux qui rassemble des chrétiens pour leur rite religieux. Et peut-être que cette deuxième définition a pris le pas sur la première définition. La première, c'est que l'Église, c'est la maison de Dieu, c'est la famille de Dieu. C'est le pilier et la colonne de la vérité. L'Église, c'est le rassemblement de tous les chrétiens. Christ distribue des capacités aux chrétiens. Pourquoi le fait-il? Puisqu'au verset 4, il est dit, il y a un seul corps et un seul esprit. De même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Elle vous a appelé à un seul Seigneur. Elle vous a appelé à une seule foi. Elle vous a appelé à un seul baptême, à un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui demeure en tous. C'est un thème très fort. Et au verset 7, il dit, à chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ. La grâce a été donnée. Devant cette entité qui est l'Église, ce rassemblement, qui est un corps, qui est un édifice, qui est une habitation de Dieu. Chaque partie de ce corps, chaque élément de cet édifice, chaque enfant de cette famille a reçu un don. Et c'est Christ qui l'a fait. C'est une certitude. Le verset 8 et 9 que j'ai sauté disent, car celui qui est monté, c'est aussi celui qui est descendu. Et celui qui est descendu, c'est le Christ. Et il est venu avec des cadeaux. Et il a fait ces cadeaux-là à tous ceux qui lui appartiennent. Et ces cadeaux, c'est des dons, c'est des capacités. Bien-aimés, dans cette église de Dieu, Dieu a fait des dons. Il a donné à chaque chrétienne, une capacité, au moins une capacité particulière, spécifique. Le sais-tu? En es-tu conscient? Chaque croyant reçoit de Dieu la grâce ou la capacité, selon la mesure du don de Christ, à plaisir à faire. Chaque croyant doit donc fonctionner dans le corps de Christ par la puissance de Dieu, en proportion du don, de la capacité spirituelle qui lui a été fait, ni plus ni moins. Chaque croyant doit donc fonctionner en proportion de la capacité spirituelle qui lui a été fait. C'est une affirmation de l'apôtre Paul poussée par l'esprit que chaque chrétien a reçu une capacité en fonction de ce que Dieu sait de lui. C'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que moi, Serge, Dieu me connaissant, la capacité qu'il m'a donnée, c'est celle-là qu'il sait que je suis en mesure de mettre au service et de manifester. Je ne suis pas Billy Graham. À Billy Graham, Dieu a donné ce don d'évangéliste international. C'est son don à lui. Et c'est de cela qu'il va répondre à Dieu, mais c'est ça qu'il doit mettre au service de l'Église. Moi, je suis Serge Oulahi. Je suis pasteur de l'Église de Créteil. C'est ici que Dieu m'a mis. C'est ce don qu'il m'a donné. Pour le temps qui est là, c'est ce qu'il m'a dit de faire. Selon le don qu'il m'a donné à la mesure de la capacité qu'il sait que je peux manifester. Donc, au lieu de réfléchir au pasteur Billy Graham, non, je dois réfléchir au pasteur Serge Oulahi de l'église de Créteil et travailler avec l'église de Créteil selon ce don que Dieu m'a donné ici. Et c'est ce que chacune de vous doit articuler pour elle-même. Le don que Dieu t'a fait, c'est selon la mesure qu'il sait que tu es capable de porter. Ça veut dire que personne de nous ne peut dire, moi je peux rien faire, c'est pas possible. Parce que Dieu sait qui tu es, et il sait la capacité que tu as, et c'est pour cela qu'il t'a donné un don spécifique. Selon la mesure que tu es capable de manifester. Amen. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de manifester dans les temps qui sont ceux-ci, les capacités, les dons que Dieu nous a fait. Jésus lui-même disait dans une des paraboles que nous connaissons pour les plus anciens, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle la parabole des talents, où il met en scène la façon dont Dieu répartit les dons et les capacités à ceux de sa maison. Et il dit que lorsque cela a été fait, celui qui était le maître de la maison est allé en voyage et il a laissé les personnes à qui il a fait ses dons, ses capacités, de les manifester, de les mettre en application, de les exercer. Et chacun l'a fait avec les dons qu'il avait reçus. Il dit, cependant, il y en a un qui avait reçu un talent. Et celui-là, il a dit, mon maître, je sais qui il est. Je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas simple. Il est un peu compliqué. Moi, je ne veux pas prendre le risque que ce qu'il m'a donné soit perdu ou n'est pas à rapporter plus. Je sais ce que je vais faire. Je vais garder ça quelque part, précieusement. Je vais rien en faire, mais je vais garder. Comme ça, quand il revient, je lui donne exactement ce qu'il m'a confié. Et Jésus de dire que le maître est revenu de son voyage et il a dit, ah, vous êtes tous bien portants. Je m'en réjouis. Qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? Rendez-moi compte pour que je m'en réjouisse avec vous. Et chacun de ceux qui avaient reçu 5, 3, 2, ont fait leur compte-rendu à leur maître en disant, voilà, tu m'as donné 5, en tout cas, je me suis débrouillé comme j'ai pu. J'ai pu avoir 5 autres. Il dit, waouh, bravo à toi. Et les uns et les autres ont fait ce rapport. Et celui à qui il avait donné un seul talent a dit, ha, 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 tu es de retour. Nous aussi, on est contents de te voir. La pièce que tu m'as donnée, je ne l'ai pas perdue. La voilà. À ce rapport, le maître était un peu étonné de savoir que tous les autres ont quand même fait l'effort de fructifier les 5, les 3, les 2 talents qu'ils avaient reçus. Et lui qui en avait reçu qu'un seul, n'a même pas fait l'effort de le fructifier pour en avoir un de plus. Et il lui a dit, mais que s'est-il passé? Et c'est là que le texte selon Jésus est remarquable. Il dit que ce serviteur a dit, je sais que tu es un maître méchant qui récolte là où il n'a pas semé. Donc c'est un voleur en fait. Celui qui sème là où il n'a pas semé, ça s'appelle un voleur. Parce que si tu n'as pas semé quelque part, pourquoi tu veux récolter là-bas? Donc, mais manifestement, il dit ça. Et il dit, sachant cela, j'ai pris cette pièce, je l'ai enfouie bien quelque part, je l'ai bien cachée. Et quand j'ai appris que tu revenais, je suis allé la déterrer et je te l'ai rendue. Et le maître dit, franchement, je suis retourné de la description que tu fais de moi. Et ça montre que tu as un cœur qui est mauvais. Regarde les autres. Ils n'ont pas fait cette réflexion. Même s'ils n'avaient pas récolté 5 de plus ou 3 de plus, je ne leur aurais pas en voulu parce qu'ils auraient fait l'effort de faire ce travail. Ce que je recherchais, c'était la motivation à faire quelque chose avec ce que je t'ai confié et non le gain qui pouvait en sortir. Et toi, tu n'as pas réfléchi comme ça. Pourquoi Jésus donne cette parabole? Il la donne, bien sûr, au niveau déjà du salut, en expliquant que le salut est gratuit et qu'il est offert et que malheureusement, certains n'en font pas grand-chose. Mais à la fin, ils le regretteront eux-mêmes. Parce que la sentence de ce serviteur, c'est « Mauvais serviteur, sors de la présence de ton maître parce que tu n'as pas été fidèle. Tu ne mérites pas même ce talent. » La deuxième lecture qu'on fait généralement de cette parabole, qui est une lecture secondaire, c'est une lecture qu'on fait par rapport aux croyants, ceux qui sont déjà sauvés, de la façon dont ils mettent en œuvre leur salut. Qu'est-ce qu'ils en font? Comment est-ce qu'ils fructifient cette bonification de leur vie que le Saint-Esprit a actée en eux? Est-ce qu'ils gardent cette transformation pour eux-mêmes, sans qu'il y ait des effets, sans qu'il y ait des manifestations particulières et massives dans leur environnement, sans qu'il n'ait de fruits de cette conversion, de cette transformation? On ne peut pas être chrétien que pour soi-même. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas être chrétien que pour soi-même. Parce que étymologiquement, chrétien, ça veut dire petit Christ. Donc celui qui est venu pour apporter une lumière. Donc le chrétien est un porteur de lumière. Peu importe l'endroit où tu es. Quelqu'un dit, il y a plusieurs types de lumière. Il y a des petites torches qui peuvent aider à voir juste un endroit. Il y en a de grands lampadaires qui éclairent des stades au point où quand même il fait nuit, c'est comme s'il fait jour. Chacun de nous, selon la mesure de foi. Peu importe l'ampleur de ta lumière. Ce qui est important, c'est que tu sois lumière là où tu es. Et Jésus dit, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, que tu as reçu la capacité de l'être. Tu l'as reçu. Tu as reçu au moins une capacité pour manifester cet état de fait. Au moins une capacité. Que Dieu nous aide. Qu'il nous enrichisse, qu'il ouvre les yeux de nos cœurs, comme il a dit dans les premiers chapitres de cette épître aux Éphésiens, pour que nous puissions, si nous ne l'avons pas encore discerné, que nous puissions discerner ces capacités-là, pour que cette lumière continue de lui, là où tu vis, là où je vis. Que le Seigneur nous aide pour que si nous l'avions discerné, que nous continuions d'être de ceux qui portent des bons fruits. De ceux qui portent de bons fruits. Jésus a dit, on ne cueille pas de mauvais fruits sur un bon arbre, ni de bons fruits sur un mauvais arbre. Un arbre qui est bon donne de bons fruits. Un arbre qui est mauvais donne de mauvais fruits. Il dit, et pourtant, vous, vous êtes des arbres qui sont bons. Donc, en principe, vous devez produire de bons fruits. Et du reste, il dit les bons fruits que Dieu a prévus d'avance que vous manifestiez. Donc, ça veut dire que quand Jésus nous a rencontrés, il a fait une œuvre incroyable en nous, de sorte que de nous ne peut sortir que de bons fruits. Jacques pouvait dire ça de sa façon à lui. Il dit, est-ce que d'une source d'eau pure peut sortir une eau empoisonnée? Il dit, c'est pas possible. Il dit, d'une source d'eau pure ne peut sortir qu'une eau pure. Il dit, et pourtant, parfois, les croyants sont quand même spéciaux. Parce que de cette source que Dieu a bénie, sort aussi une eau empoisonnée. Il dit, ce sont vos paroles. Il dit, comment des croyants transformés par Jésus-Christ peut sortir de mauvaises paroles, des paroles assassines. Je l'ai dit une fois, je le répète, un artiste chrétien a dit que des fois, nos paroles sont comme des armes chargées. Comme, je ne connais pas, je ne suis pas militaire, je ne connais pas cet éventail, mais l'arme qui me vient à l'esprit, c'est la Kalachnikov, qui semble être une arme de destruction où on peut tuer plusieurs personnes à la fois, avec des balles qui sortent comme ça en rafale. Et lui disait dans ce slam que parfois les chrétiens, malheureusement, sont comme ces Kalachnikovs qui sortent des paroles à rafale, et ces paroles à rafale font plus de mal que de bien, alors qu'ils sont en train de les sortir. Que Dieu nous aide. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ. Nous avons reçu une capacité pour faire du bien. Au moins une pour faire du bien. Vas-y, s'il te plaît. Et les dons, il va préciser dans, à partir du chapitre 11, qu'il a fait des dons spécifiques. Et ces dons-là, ce n'est pas des capacités. Pour cette fois-ci, c'est des personnes. Il dit, il a donné à l'Église des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la statue parfaite de Christ. C'est donc qu'il a fait. Ce sont des personnes auxquelles Christ a accordé des capacités particulières, notamment les apôtres. Et celui qui parle, c'est un apôtre. Paul, quelqu'un dont le passé était chargé négativement, que Christ a rencontré sur le chemin de Damas et qu'il a transformé en bien. C'était un tueur de chrétiens avant sa conversion. C'était son rôle. Il avait pour mission de débusquer tous ceux qui étaient chrétiens et de les faire juger Or, de ce jugement sortait une seule sentence, la mort. C'était son travail. Il dit, j'étais zélé pour ça parce que je croyais que j'étais dans la vérité. Parce que j'étais de cette secte judaïsante où pour nous, tous ceux qui parlent de Jésus comme le Messie sont des anathèmes, des maudits qu'il faut arracher et tuer. Un peu comme les terroristes d'aujourd'hui. C'était son travail. Et sur le chemin de Damas, il a cette vision. Jésus le rencontre et il se convertit. Et désormais, c'est lui qui est l'apôtre parmi les païens. Et lui, il est un apôtre. Dieu a donné l'apôtre Paul à l'église. Il a eu un ministère incroyable, avec des conditions terribles des fois. Il raconte ce qui lui est arrivé avec beaucoup de recul, mais c'est énorme. Il dit, j'ai été battu combien de fois par le fouet, combien de fois on m'a laissé mort alors qu'on m'avait lapidé. Et combien de fois Dieu m'a relevé, combien de fois on m'a insulté. Il y a des fois, j'ai passé des nuits entières sans manger. Mais il dit de tout cela, Dieu a manifesté son œuvre. Et c'est par le ministère de ce monsieur qui a eu toutes ces églises au premier siècle installées dans cette partie du monde, de l'Asie mineure jusqu'au début du monde occidental, à Rome. Il s'appelle Paul. Personne n'aurait parié que ce serait lui qui l'aurait fait. Pierre est un pêcheur de poissons, un homme ordinaire dans la Palestine de l'époque. Il n'est pas un grand docteur de la loi, il n'est pas un sacrificateur, c'est un homme du peuple. Et c'est lui que Jésus choisit. Il dit, Simon Pierre, viens et suis-moi. Et c'est de lui que Jésus fait le responsable des 12. Incroyable. En Actes chapitre 3, quand les responsables religieux entendent parler de Pierre, ils disent, mais qui est ce Pierre? On ne le connaît pas, il n'est aucunement sur aucune liste des gens importants de ce pays. Et pourtant, il fait tant de bruit. Et l'apôtre Pierre va dire une phrase. Jugez-en vous-même. Est-il bon d'obéir à Dieu plus qu'aux hommes? Et au paralytique, il va dire, nous, on n'a rien, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est de ce Pierre qu'il s'agit. Un homme comme nous. Lui aussi, il était apôtre. Dieu a donné des évangélistes comme Philippe, qui a évangélisé l'énuque éthiopien. Incroyable Philippe. Il a ouvert la voie de l'évangile en Samarie. Et c'est lui que Dieu envoie rencontrer, l'énuque éthiopien. Dieu a donné Philippe à l'église comme évangéliste. Des pasteurs, des tout jeunes, comme Timothée, comme Tite, formés par Paul. Paul les envoie, des hommes, comme nous. Et dans l'épître aux Colossiens et dans la fin de l'épître aux Romains, Paul cite tous ceux qui ont été avec lui dans le ministère. Incroyable. Des hommes et des femmes. Et il les connaît chacun et chacune par leur nom. Et il dit avec précision ce qu'elles ont été, ce qu'ils ont fait pour l'œuvre de Dieu. Et même à l'une d'entre elles, il dit, bénissez-la parce que cette femme, honnêtement, c'est elle qui nous a accueillis. C'est elle qui nous a hébergés, c'est elle qui nous a donné ce lieu où nous avons pu faire l'église. Je bénis cette sœur, saluez-la de ma part. Elle est citée dans la liste de ceux qui sont des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu. Vous savez, être serviteur de Dieu, c'est pas de faire des choses extraordinaires pour Dieu. C'est de faire ce que Dieu vous met à cœur de faire pour son œuvre. On parle de Phoebé, on parle de Lydie. Mais on ne nous dit pas qu'elles ont fait des miracles. On nous dit juste que c'était des femmes de bien. C'était des femmes de bien. Elles faisaient du bien autour d'elles en tant que chrétiennes. Et ça a marqué l'histoire de l'Église. Et on parle de ces femmes aujourd'hui. Il a donné des docteurs. Des docteurs, c'est eux qui ont forgé la pensée de Dieu pour nous. Qui nous la rendent lisible, qui nous la rendent simple, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3, il dit, moi je sais que Pierre, que Paul est un docteur, et que parce qu'il est un docteur de la parole, des fois, si on le suit pas bien, si on l'écoute pas bien, on peut tordre le sens de ce qu'il dit pour notre propre ruine. Et donc il dit, il faut des gens comme ça pour qu'ils nous donnent la bonne formation, mais il faut suivre. Donc Dieu nous donne des docteurs, des gens qui nous articulent des aspects de la foi qui peuvent être parfois difficiles ou complexes, il nous les simplifie. Nous sommes au bénéfice des docteurs, des enseignants, de ceux que Dieu nous donne. Il dit que tout cela, pourquoi Dieu nous les a donnés? Bah, Dieu nous a donnés pourquoi? Pour que eux, à leur tour, ils édifient les autres. Il dit, c'est pas à eux de faire l'œuvre de Dieu. Enfin, c'est pas à eux de faire toute l'œuvre de Dieu. Eux, leur rôle, c'est ce qu'ils ont fait. C'est d'être capables de nous capaciter. Donc, le mot capacité, c'est-à-dire de nous rendre sensibles aux capacités, aux dons que Dieu a mis en chacun d'entre nous pour que chacun d'entre nous se lève et qu'il se manifeste et qu'il mette en action sa capacité ou ses capacités pour l'œuvre de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'en réalité, l'œuvre de Dieu, c'est chacun et chacune d'entre vous. C'est nous, l'Église, qui le faisons. Ce n'est pas le pasteur tout seul, ce n'est pas les anciens tout seuls, ce n'est pas les prédicateurs tout seuls, ce ne sont pas les apôtres tout seuls, ce ne sont pas les évangélistes tout seuls, ce ne sont pas les docteurs tout seuls. Non, c'est l'Église de Dieu qui le fait. C'est nous qui le faisons. D'où notre importance, chacun et chacune aux yeux de Dieu. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu as une importance parce que tu es l'enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, mais tu es important parce que dans le plan de Dieu, ton action compte. Sur l'échiquier de Dieu, tu es un enfant utile entre les mains de son Père. Tu n'es pas un pion, non. Tu es un enfant de Dieu, utile pour son Père et utile pour les autres. Le texte dit, pour que nous soyons utiles les uns aux autres, pour que nous marchions vers l'unité, pour que nous marchions vers la connaissance du Fils de Dieu, pour que chacun de nous devienne un chrétien adulte et mature. Et enfin, dans la mesure où chaque croyant fonctionne selon les dons que Christ lui a donnés, dans la mesure où chaque croyant fonctionne, c'est une partie de la phrase que je vous ai donnée, dans la mesure où chaque croyant fonctionne selon le don que Christ lui a donné. L'expression contraire, c'est si chaque croyant ne fonctionne pas selon la mesure et la capacité que Dieu lui a donnée, qu'est-ce qui va se passer? Selon vous. Si j'ai un engrenage, vous savez, les engrenages, c'est des pièces qui s'emboîtent les unes aux autres. Hein. Si une tourne, elle fait tourner l'autre, et la deuxième fait tourner la troisième, ainsi de suite. Et c'est tout ça qui fait tourner la machine. Si l'un de ces engrenages est bloqué, qu'est-ce qui se passe? La machine s'arrête. Peut pas. La machine s'arrête. Nous n'avons peut-être pas souvent compris que si nous ne faisons pas avec amour ce que Dieu nous demande de faire, quelque part, sans nous culpabiliser, quelque part. Vas-y. Merci. Dans la mesure où chaque croyant fonctionne selon les dons que Christ lui a donnés, le corps entier peut jouir de l'unité et acquérir de la maturité sur le plan spirituel, c'est-à-dire devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Ça veut dire que selon ce texte, pour que chacun de nous devienne de plus en plus semblable à Christ, il faut que chacun de nous joue son rôle. C'est parce que chacun de nous va activer sa capacité dans l'Église de Dieu à faire ce que Dieu lui a mis à cœur, que nous, les uns et les autres, nous serons aussi transformés. Nous serons édifiés, nous serons construits pour atteindre de plus en plus la ressemblance à Jésus-Christ. Un exemple simple. Si il nous arrive en tant que chrétiens de cette église de Créteil d'avoir des différends et que nous n'arrivons pas à les régler, à nous pardonner, comment nous pouvons ressembler à Christ? C'est un peu difficile. Puisque la Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et que par son œuvre, il a acquis pour nous le pardon de Dieu. Et que lui-même en priant, en nous montrant la prière de base, il dit, si vous priez, dites, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, si Si je n'apprends pas le pardon, comment puis-je de plus en plus être semblable à Christ? Aimez-vous les uns les autres comme le Christ vous a aimé au point de donner sa vie pour vous. Donc, si je n'apprends pas à aimer de plus en plus, comment je peux être de plus en plus semblable à Christ? Alors que nous étions pécheurs, Christ nous a aimés le premier. Si j'attends que l'autre soit parfait avant de l'aimer, comment puis-je ressembler de plus en plus à Christ? Alors que lui, il m'a aimé, alors que je n'étais même pas aimable. Alors que j'étais encore pécheur. Alors que je n'étais pas encore parfait. Alors que j'étais peut-être encore dans mes embrouilles. Ceux qui ont des dons doivent les mettre au profit des autres, jusqu'à ce que tous les membres de l'Église atteignent 1. L'unité de la foi et de la pleine connaissance du Fils de Dieu. 2. L'état d'homme fait, d'homme adulte, de personne aguerrie, des personnes à maturation, à maturité. La maturité, c'est une étape de la vie qui dit « Ah, il est capable, il est responsable de lui-même. » Il saura faire les bons choix. Il sait faire les bons choix. C'est ça, un adulte. Un adulte est censé savoir, devant plusieurs options, prendre l'option qui est la bonne. Un enfant ne le sait pas toujours. C'est pour ça que les enfants sont sous tutelle. Parce qu'ils ne savent pas toujours, sur plusieurs options, laquelle est la bonne pour eux. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas acquis la maturité pour avoir ce discernement-là. Et les parents les aident jusqu'à ce qu'ils soient capables de les prendre à leur tour. Je me souviens que hier, j'étais encore un enfant et qu'aujourd'hui j'ai 50 ans et que je décide pour moi-même avec mon épouse et qu'on décide même de l'avenir de nos enfants, c'est énorme. C'est énorme. En Christ, c'est pareil. Quand vous êtes mature, vous êtes censé savoir faire les bons choix. Vous êtes censé savoir dans les décisions, dans les options, dans les propositions, savoir discerner, choisir, élaguer, rejeter, avancer, éviter. C'est ça, l'homme mature. Mais c'est le ministère de chacun de nous qui nous aide à acquérir cette maturité-là. Le service ou la bonté ou la fraternité, ou le travail de l'école du dimanche. Quels sont ceux d'entre vous qui sont passés à l'école du dimanche, qui ont été au bénéfice du ministère de l'école du dimanche? Vous pouvez juste lever la main. Ce n'est pas une question piège. Il y en a si peu. Non. Imaginons qu'il n'y ait pas l'école du dimanche. On ne peut même pas imaginer qu'il n'y ait pas l'école du dimanche. Ça veut dire que le ministère qui se fait là-bas est important. Parce que ça met des bases, ça garde les enfants dans un environnement, dans un enseignement. Quelqu'un disait hier au groupe d'hommes qu'ils ont eu confiance à un moment donné ici à l'église de Créteil parce que le groupe de jeunes avait une telle construction qu'ils ont été, alors qu'ils étaient à 8000 kilomètres, ils ont été en confiance de confier leurs jeunes au groupe de jeunes de cette église. Parce qu'ils savaient qu'ici, l'encadrement était solide, était bon. Donc le ministère de cette époque, de ces responsables de groupe de jeunes, ont aidé des gens qui sont maintenant aussi des adultes et des parents. Ça les a forgés, ça les a formés. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun de nos ministères, chacun de nos services ici, a son utilité. Peu importe le service dans lequel tu es, chaque service, chaque capacité a son utilité. Et enfin, que nous puissions arriver à la mesure de la statue parfaite de Christ. Vas-y sur la dernière. Et la question pour chacun de nous ce matin, c'est est-ce que je deviens de plus en plus semblable à Jésus-Christ depuis mais X années de conversion. Est-ce que je deviens de plus en plus semblable à Christ Jésus? Moi, je vous ai dit souvent, j'aime pas me culpabiliser parce que ça sert à rien. Mais j'aime me projeter pour avancer avec le Seigneur, notre Dieu. Seigneur, cette question, elle est là pour me dire, tu peux avancer, Serge. Quel est l'objectif? Quelle est la cible? Comment tu peux savoir que tu progresses? Bah, c'est en mettant cette cible devant toi, ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Est-ce que dans tel ou tel domaine, je ressemble de plus en plus à Jésus-Christ? Comment le saurais-je? Ben, c'est en étudiant la parole de Dieu, c'est en étant au bénéfice du ministère des uns et des autres. Amen. Et puis en plus, si tant est que nous fonctionnons, c'est pour ça qu'il y a une doctrine qui nous, pour laquelle je suis, d'après, comme mon troisième fils, je suis en colère contre cette doctrine-là. Parce que cette doctrine qui dit que les chrétiens n'ont pas besoin d'église locale, je suis en colère contre cette doctrine. Parce que ça isole des enfants de Dieu qui finalement, au lieu de grandir, rabougrissent et deviennent aigris. Et souvent, ces enfants de Dieu, ce qu'on entend de leur bouche par rapport à l'église, c'est que négation, c'est que des choses négatives. Que des choses négatives. Imaginez, je suis dans ce profil, j'ai des enfants, je ne vais plus à l'église. Mais tout ce que je dis dans la maison sur l'église, c'est négatif. Que vont faire mes enfants quand ils vont grandir? Que vont faire mes enfants? Ce que l'apôtre Paul dit ici dans Éphésiens, c'est pour l'église locale. Chacun de nous a une utilité dans chacune des églises locales. Pour nous qui sommes ici, notre utilité est ici à Créteil. Demain, Dieu va nous envoyer dans d'autres églises. Mais pour l'instant, nous sommes ici. Faisons ce que Dieu nous demande de faire avec la capacité qu'il nous donne. En le faisant, nous bénissons les frères, nous bénissons les sœurs et nous aidons chacun de nous à grandir à la maturité du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble.